Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Anne-Laure pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je suis à la mairie de Savat de Longmont pour faire connaissance avec le maire du village, Monsieur Gilbert Bouteille. Monsieur Bouteille, bienvenue sur RVM.
Bonjour Yann, merci pour cette venue et à vous, merci de venir nous rencontrer dans notre commune, notre petit village que nous aimons avant tout, quoi, et puis que nous allons continuer à conserver à l'état du village et embellir.
Alors Monsieur Bouteille, vous êtes déjà intervenu dans notre émission L'Oreille dans le coin, c'était en tant que président de l'association qui a pour nom Festivité Valmontoise. Vous avez d'ailleurs organisé à 3 reprises un événement qui s'appelait Fête médiévale.
Absolument. Ma présidence va se terminer, puisque maintenant, vu ma fonction de maire de la commune, je ne peux être à la fois président d'une association à laquelle on octroie des subventions, et puis mon rôle de maire. Pour cette fête médiévale, donc une autre version va être en 2021. On va continuer à l'organiser, même si j'ai plus la fonction de président. Parce qu'il y a déjà une structure pour l'organisation et on va donc chercher d'autres partenaires. Je pense que nos administrés tiennent à ce que ça se fasse encore cette fête médiévale parce que vu la popularité que l'on a eue jusqu'à maintenant, c'était quand même très bien et voilà, il faut conserver cette fête médiévale.
Avant de parler de votre fonction de maire, on va essayer de faire connaissance avec vous, Monsieur Bouteille, en tant que citoyen. Et déjà un petit peu de parler d'où vous venez. Vous n'êtes pas originaire de l'Oise, vous êtes plutôt de la région parisienne, c'est ça ?
C'est ça. Je suis même né à Paris 14e. Je ne suis pas resté trop longtemps parce que mes parents avaient un appartement sur Argenteuil. On était 3 enfants, donc il fallait les loger. Et on était chez les grands-parents, donc ce n'était pas facile pour eux. Donc on est arrivé, j'avais 3 semaines à Argenteuil. J'ai passé quelques années jusqu'en 82-83 à Argenteuil. J'étais déjà avec ma femme et puis après, nous sommes allés sur Fosse dans le 95, à la limite de l'Oise. Et puis depuis 2004, nous habitons à Saint-Malo-Mont.
D'accord. Durant votre vie, vous avez exercé, vous êtes même jeune retraité, GRDF, c'est ça ?
Alors, c'est ça. Alors, mon origine de base, c'est le Gaz de France. Gaz de France, à l'époque, c'était Gaz de France. Après, il y a eu la fusion avec EDF. Je suis donc allé dans les 2 énergies, gaz et électricité. Et j'ai fini ma carrière en tant que GRDF, puisque c'est la nouvelle appellation maintenant. Donc, dans la partie distribution du Gaz de France. J'ai une culture de deux énergies, disons.
Monsieur Bouteille, entre 2005 et 2010, vous étiez président d'une association qui s'appelait Pat Centrale, qui luttait à l'époque contre l'implantation d'une centrale de gaz initiée par le maire de Verberie à l'époque, Monsieur Floury.
Alors, ce projet qui a vu le jour en 2005, effectivement, gros problème au niveau de la population. Donc, il y a eu un collectif qui s'est monté, dont je faisais partie. Je n'étais pas à l'époque président. Mais on a rassemblé beaucoup de personnes contre ce projet qui n'avait pas lieu d'être. Le projet appartenait à Direct Énergie. Ils avaient 150 projets environ sur la France. Je ne sais pas vraiment si la totalité a abouti. Déjà, notre projet ici, enfin le projet que voulait absolument M. Floury, à l'époque, qui était maire de Verberie, n'avait pas de sens, si vous voulez. Beaucoup d'intervenants autour de tout ça, notamment le ministère de l'Agriculture, qui était avec nous contre, parce que ces gens-là ont des cultures sur le plateau, là où ça devait s'implanter, et travaillent avec des grosses sociétés qui mettent les produits en vente. Voilà. Donc, ils avaient un fort critère de qualité, et ils ne pouvaient pas décemment continuer si ça s'implantait. Parce que les rejets et tout ça, enfin bref. Ça a duré 5 ans, cette histoire. Donc en définitive, le biocorridor nous a aidés. Et c'est de là qu'est venue donc, la décision du tribunal administratif d'Amiens en disant que le projet n'était pas bon par rapport à l'agriculture, par rapport à la faune, par rapport au biocorridor. Et j'ai fini comme président il y a peu de temps. J'ai démissionné d'ailleurs parce que par rapport au statut, c'était incompatible. D'accord. Mais ce collectif existe toujours. Enfin, cette association existe toujours. Elle est en stand-by. On a traité des affaires, notamment par rapport aux zones humides. Mais on continue, on est toujours là.
Quoi?
Vous êtes investi dans cette association, mais également au sein de la municipalité du village, puisque vous avez été vous avez été d'abord adjoint, puis conseiller municipal, lorsque Madame Fusée exerçait sa fonction de maire.
Absolument. J'avais décidé de m'investir pour la commune, avec mes connaissances, mes acquis. Donc j'étais en droit de demander et de postuler pour le poste de premier adjoint. Ça a créé des polémiques, ça a été tendu. Bref, je suis arrivé en poste et puis ça a duré que 3 ans malheureusement. J'ai démissionné parce que les délégations n'existaient pas vraiment. Disons, il n'y a même pratiquement aucune délégation. Et moi, c'est ce que j'attendais, c'était de pouvoir aider Madame Fusée, à l'aider dans son travail. Je veux dire, prendre des choses, travailler dessus. J'ai jamais donné mon accord, mais en pensant toujours par elle. C'était logique, dans le sens. Bon, ça n'a pas été comme ça. Et puis après, j'ai démissionné de mon poste de conseiller parce que, j'estimais que c'était pas des démarches logiques. C'était pas une équipe qui travaillait, c'était une personne. Par rapport à notre campagne, si vous voulez, on a toujours dit, j'ai toujours dit aussi, que c'était le travail d'équipe avant tout. Ce n'était pas une personne qui travaillait, c'était l'ensemble. C'est démocratique. Donc les décisions, je peux en prendre, parce que j'ai une délégation. Mais il y a certaines décisions qui sont importantes pour le village, qui engagent des grosses sommes financières. Et voilà, donc la décision, elle revient au conseil, elle ne revient pas uniquement à moi.
C'est ce qui vous a motivé donc à vous présenter avec une liste unique où vous avez été élu avec 85% des voix. On va relativiser un petit peu le score parce qu'il y avait 499 inscrits, 213 votants. Et on va rentrer encore dans les chiffres, mais il y avait aussi près de 58% d'abstention. Mais néanmoins, vous avez remporté cette élection.
Oui, alors, bon, c'est dans des conditions bien particulières, tout le monde le sait. Même on était à la limite que le gouvernement, le préfet, annule cette élection. Donc ça s'est déroulé effectivement avec un fort taux d'abstention. Mais néanmoins, j'estime qu'on a fait un bon score. Donc moi, je m'estimais satisfait. On aurait pu avoir du 60% pour certaines personnes, surtout les anciens conseillers. C'est toujours de bonne guerre de donner moins de voix aux anciens conseillers. Non, moi, j'ai été fort surpris, agréablement, par le fait qu'on soit tous au-delà des 80%.
Alors, ce qui était important dans votre campagne, M. Bouteille, c'est de mettre la qualité de vie du village au centre. C'est-à-dire que Saint-Vaast-des-Longmonts a une âme, a une identité propre et vous vouliez absolument la préserver.
C'est ça. Avant tout, je ressens dans les administrés vouloir conserver cet état de petit village et de ne pas se faire un petit peu dominer, de se faire manger par de la construction qui ne serait pas bienvenue, qu'on devienne une ville. On est dans un endroit, alors on a un petit peu la banlieue de Verberie, un peu le quartier résidentiel. C'est ça qu'on va conserver. C'est ça qu'on va surveiller. On mettra tout en place. Toutes les conditions qu'on va pouvoir chercher, qu'on va pouvoir mettre en place, on les mettra en place pour ça, pour préserver tout ça. Et je crois qu'il y a une forte demande des administrés. Et ils nous fait comprendre, de toute façon, puisque le vote, c'était le leitmotiv, c'était ça. Hein. C'était on va conserver l'âme propre de Saint-Vaast-des-Longmonts. Ils l'ont bien compris, les habitants.
Bien sûr. Par rapport à cet axe, vous avez un projet phare, c'est de faire du Longmont arboré un circuit touristique. Vous pouvez être un petit peu plus précis ?
Tout à fait. Alors, ça va dans l'esprit de rester village, c'est-à-dire on va plus développer le tourisme que le reste. J'avais eu connaissance avec du temps de mon prédécesseur. Il y avait un organisme qui avait repéré qu'il y avait des choses bien particulières dans les bois, des essences, des végétaux, ces choses découvertes et qui existent. Faire un parcours touristique pour découvrir tout ça avec une aide du PNR, du Parc Naturel Régional, avec qui nous avons une convention maintenant. Nous avons été rattachés à chose qu'on attendait depuis des années. Et donc, avec l'aide de ce Parc Naturel Régional, du PNR, on va développer ça, vous voyez. Donc, une partie touristique sur le plateau. Il y a une vue assez surprenante, d'ailleurs, sur le plateau, sur l'ensemble de Compiègne. Là, tout ça. Bon, voilà. Ça, c'est à démontrer, c'est à signaler, c'est à organiser, c'est à faire.
Le deuxième axe, c'est de renforcer la sécurité au sein du village.
Oui, oui. Alors, je dirais même que ça va être essentiel et prioritaire. Parce que encore dimanche, hein, je suis désolé, mais encore dimanche, il y a une personne avec une moto avec du bruit pas possible. Bon, déjà le bruit. Ensuite, cette personne-là, son casque. Alors après, c'est risque et péril. Passer deux fois dans un sens interdit, là, je dis ça, stop. En plus, il y a des enfants ici. On a beaucoup d'enfants. Rouler à des vitesses comme ça, avec ce bruit-là, un enfant traverse la rue, bah, le drame, il est là. Donc, on va s'axer beaucoup sur la sécurité. Et nous sommes avec l'ARC en étude pour implanter dans le village de la vidéosurveillance. En discutant, en regardant l'évolution du village là, comme il est, et le retour du confinement. Attendez, la fin du confinement a fait que les gens avaient envie de sortir. Mais c'est normal, on le comprend. Mais après, faire tout et n'importe quoi, je crois que ça va être une priorité des priorités.
Alors, le village a un taux de retraités assez important. Donc, le troisième axe de votre campagne, c'était de créer, dans les prochaines années, ce qu'on appelle un accueil intergénérationnel.
Ah oui, je vois de quoi vous voulez parler. Ce projet qui est donc dans notre PLUI, l'idée de base, c'était une maison médicale. Encore quelques polémiques là-dessus qui n'étaient pas nécessaires. Intergénérationnel, je ne suis pas encore sûr qu'on le fera. Mais forcément, on va faire quelque chose. Mais aujourd'hui, il ne faut pas multiplier ce genre de choses parce que ça ne sert à rien. Hein. On va faire quelque chose, il n'y aura personne dedans. Donc, c'est une étape pas prioritaire, déjà, pour nous. Elle le sera dans le mandat, dans les 6 ans. Mais, si vous voulez, on y pense, mais il va falloir qu'on s'y mette. Pour l'instant, on a beaucoup de choses à régler. Des choses sur des demandes de permis de construire, des organisations à faire. On découvre des choses à faire incessamment, tout de suite, là. Donc, mais on y pense. On y pense. La chose qui est organisée actuellement, c'est que j'ai fait des délégations aux adjoints. Chaque adjoint a une mission bien particulière. Et ils sont déjà au travail. Et ils me rendent des comptes, bien sûr. Hein. Comme moi, je rends des comptes aussi lorsque j'ai des choses, des rendez-vous ou quoi que ce soit. C'est normal. Il faut qu'on ait un bon contact. Il faut qu'on ait une osmose dans notre organisation avec mes adjoints. Parce qu'il est hors de question que je fasse tout. C'est pas possible. Donc la délégation, elle est mise en place. Et je peux vous dire qu'elle fonctionne très bien.